Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM, vous êtes ici, il est 13h04 très exactement, nous sommes le vendredi 26 janvier, pour cette dernière de la semaine. Je ne suis pas tout seul pour cette première partie d'émission, puisque Eve va passer un petit coup de fil à Sylvain qui est membre du collectif citoyen du territoire Rosier d'Aigleton, le collectif qui, il faut le savoir, organise une réunion publique sur l'extension de la scierie Pivetot-Fargebois. Voilà, nous verrons ça dans un court instant avec Eve et Sylvain. Vous entendrez à 13h30, comme tous les jours de la semaine, le journal régional proposé par l'équipe du Graal. Actualité sportive à l'honneur également, en deuxième partie d'émission. Tennis, handball et le trail des troubadours. On voit ça en détail avec notre chroniqueur Johan Capu qui sera là à 13h40 environ. La chronique en Limousin. Eve, tu en sais plus là-dessus, dis-moi tout.
Et bien après les nuits de la lecture la semaine dernière, ce soir c'est au tour de la nuit des conservatoires, c'est la 11e édition de cet événement national, l'occasion de découvrir vos conservatoires à l'intérieur, c'est une chronique en Limousin proposée par Thomas Vandendrich et ce sera donc à 13h50.
Yes, ça marche, entre autres, on te retrouvera, je vais y arriver aujourd'hui, c'est vendredi, on te retrouvera Eve pour la météo du week-end en dernière partie d'émission. Vous êtes ici sur Bram FM en direct jusqu'à 14h. Fire, fire, soul fire. Friendly flames of fire lift us up and take us higher, higher. Et pour commencer, je vous propose une petite respiration musicale avant de retrouver Eve et Sylvain pour cette interview. Je vous propose un petit Roberto Fonseca qui est programmé au Festival du Bleu en hiver, je vous le rappelle. Ce sera au Théâtre de Brive le 3 février prochain. On l'écoute avec le titre Mani Mambo.
Mani 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 Mambo, Mani 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 Mambo, Mani Mani.
Roberto Fonseca sur Bram FM, Mani Mambo, et ça me permet de vous rappeler qu'il reste des places pour aller le voir au Théâtre de Brive, ce sera le 1er février, hein, à l'occasion du festival, donc à bon entendeur. Comme promis, nous retrouvons Eve qui est au téléphone, avec Sylvain qui est membre du collectif Rosier Aigleton.
Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Vous êtes membre d'un collectif citoyen du territoire de Rosiers-d'Égletons, collectif qui organise une réunion publique autour du sujet suivant: l'extension de la série Pifto Farge Bois est-elle bénéfique pour le territoire? Pouvez-vous peut-être nous rappeler pour commencer le contexte de cette réunion et l'extension de la série Pifto Farge?
Oui, donc ce collectif dont je fais partie, c'est monté dans un contexte de polémique autour du projet d'agrandissement de cette série qui est située sur la commune d'Égletons et de Moustier. Le contexte, c'est qu'on a un projet de série industrielle. La série industrielle existe déjà, mais le projet consiste à doubler sa capacité de sciage, son volume de bois exploité. Et pour ce faire, l'usine a besoin de s'agrandir. Et donc, pour faciliter l'agrandissement, les collectivités locales ont fait une déclaration d'utilité publique qui leur ont permis d'exproprier des riverains pour récupérer les terres, pour les revendre à la Syrie. Et donc, c'est le début d'une mobilisation de riverains qui se battent contre leur expropriation. Bon, et à partir de là, donc, des informations circulent sur ce projet, et puis s'agrège autour de cette thématique des problématiques forestières. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une collectivité qui exproprie les riverains qui se mobilisent, mais il y a également la question que pose ce projet, c'est qu'est-ce que ça va impliquer pour la forêt et la ressource forestière et la filière forestière, qu'un acteur qui est déjà très gros double de taille. Sachant que pour donner une image, en fait aujourd'hui cette scierie, son activité repose sur la coupe de 600 hectares par an, et donc il s'agirait de doubler cette surface. Voilà.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui si le projet a été acté ou non ?
Alors le projet, en fait, il est attaqué en justice de toutes parts, parce que il y a une longue histoire en fait de procédures un peu bancales. C'est-à-dire que entre 2010 et aujourd'hui, donc Pifto c'est le nom du groupe, c'est Pifto Bois, du nom de son PDG, qui a racheté la Syrie il y a une dizaine d'années. En fait, Pifto s'est agrandi sans autorisation de la préfecture. Et s'est mis à exploiter des infrastructures sans autorisation. Donc, en fait, la situation a été régularisée par la préfecture après. Et donc, cette décision de régularisation est attaquée. Il y a également autre chose qui est attaquée, c'est le plan local d'urbanisme de la communauté de communes qui transforme des terres agricoles en terres industrielles au bénéfice de ce groupe. Et ensuite, il y a déclaration d'utilité publique, qui finalement n'a pas grand-chose de public, puisqu'elle permet à la collectivité de récupérer des terres, mais pour le bénéfice d'un seul groupe industriel. Donc c'est acté, c'est-à-dire que la communauté de communes, enfin les élus, la majorité d'entre eux en tout cas, ont souhaité acter ça, mais le tribunal administratif dira si c'est légal ou non. Et voilà. Et en parallèle de ce qui se passe au tribunal administratif, eh bien, il y a des tentatives de diffuser l'information et de créer du débat, puisque jusqu'à présent, il y a eu peu d'occasions.
Alors, on sent que les collectivités sont plutôt en accord avec cette entreprise privée. Oui. Quels sont, eux,
les arguments
qu'ils mettent en avant pour défendre un groupe privé sur un territoire public ?
Eh ben, c'est un peu toujours les mêmes. C'est ce qu'on peut lire aussi dans l'avis des rapporteurs de l'enquête publique. C'est-à-dire, ça va créer de l'emploi, ça va créer des recettes fiscales pour le territoire. Mais c'est toujours aussi la même façon qu'on peut trouver pour attaquer ces arguments, c'est qu'ils sont un peu simplistes et qu'ils regardent qu'un seul des côtés de la médaille. C'est-à-dire que certes, il y a des recettes, mais il va aussi y avoir des dépenses de la collectivité, parce qu'il y a un trafic routier de poids lourds qui va doubler, il y a des coûts en termes de pollution qui vont être supportés par la collectivité, et du coup c'est beaucoup plus diffus que une taxe directe. Et donc, voilà, c'est assez simple de dire il va y avoir un bilan positif du côté de l'emploi et de l'économie si on regarde pas ces choses plus diffuses, c'est-à-dire est-ce que ça va détruire des employeurs et est-ce que ça va créer des coûts induits ailleurs. Mais après, il y a une autre raison pour laquelle elle, un peu plus officieuse, disons, pour laquelle les collectivités semblent favorables. Alors, enfin, une raison, c'est une interprétation en tout cas. C'est que comme c'est un gros employeur, et que, enfin c'est un gros employeur, il y a une centaine de salariés, ou un peu plus, 150, donc pour le bassin d'Aigleton, c'est pas rien. Et ben, il y a beaucoup de monde finalement qui a des connaissances dans l'entreprise, ou bien dans les exploitations forestières qui sont clients de l'entreprise, et du coup, il y a une réticence à exprimer des voix discordantes qui existent, mais qui sont toujours timorées, anonymes, etc. D'où cette tentative de réunion publique pour essayer de d'ouvrir un peu le sujet et d'en faire quelque chose de public.
Oui, justement, parlons-en de cette réunion publique. Donc, c'est à l'initiative d'un collectif citoyen du territoire dont vous faites partie. C'est une réunion qui aura pour sujet principal l'extension de la série Pifto Farge Bois est-elle bénéfique pour le territoire. Et vous allez donc aborder plusieurs thèmes sur lesquels vous allez échanger, notamment l'économie locale, l'emploi, la gestion forestière du territoire, l'environnement et le cadre de vie, ainsi que les dépenses publiques. Pourquoi une réunion publique fait-elle sens à vos yeux aujourd'hui ?
Eh bien, elle fait sens pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un enjeu de démocratie, hein, c'est-à-dire que les personnes qui se sont regroupées et qui sont à l'initiative de cette réunion, eh bien, pensent que quand il y a des décisions qui impactent, qui orientent un peu l'avenir du territoire, c'est-à-dire que si on aménage une com-com pour un industriel, c'est-à-dire que le territoire est engagé dans cette direction. C'est-à-dire que si l'industriel cesse son activité, ça va toucher tout le territoire. S'il double son activité, ça va toucher toute la forêt autour. Donc voilà, ça on pense que, dans le système politique qu'on souhaite, eh bien, ce type de sujet se discute avec les habitants et dans un cadre qui n'est pas forcément archi-technique, du style consulter un dossier d'enquête publique dans des délais très contraignants et à des horaires contraignants, comme ça a été le cas là, pour la déclaration d'utilité publique. Donc voilà, l'enjeu, c'est d'essayer d'entendre ce que les gens ont à dire, et puis de recueillir ces propos pour savoir que pensent réellement les habitants de cette affaire. Peut-être qu'une partie pense que c'est une opportunité, peut-être qu'une partie pense que ça va avoir des effets négatifs, mais il faut bien organiser une réunion publique pour que cette parole se libère. Enfin voilà. Après, on se fait pas d'illusions. C'est-à-dire que les réunions publiques, elles n'ont jamais déplacé des foules, surtout ces jours-ci. Mais si on n'essaye pas, on aura le mérite d'essayer au moins. Et puis d'avoir fait ce que d'autres auraient dû faire, sans doute, mais n'ont pas fait.
Alors vous parlez des habitants et des habitantes, mais vous vous adressez aussi aux élus, aux professionnels du secteur de l'immobilier, du tourisme, de la filière forestière, des associations environnementales. Qui c'est qui va animer Est-ce qu'il y aura une personne pour animer? Est-ce que c'est tout le monde peut prendre la parole? Comment elle va se passer cette réunion publique?
Alors on s'organise, disons, pour que l'animation elle soit partagée entre plusieurs personnes, mais le schéma qui est prévu, c'est qu'il y aurait une présentation de un quart d'heure, 20 minutes générale sur la forêt limousine, la filière forestière en Limousin et le site industriel tel qu'il existe aujourd'hui et puis les projets d'agrandissement tels que Pifto les présente à la préfecture. À partir de ça, on souhaiterait laisser la parole donc au bout d'une vingtaine de minutes aux participants et participantes. Et alors ce qui s'est passé, ce que le collectif a fait également, c'est un petit travail d'enquête sans grande prétention, hein, mais les gens ont passé beaucoup de coups de fil à des agences immobilières, à des coopératives, à des coopératives forestières, à des syndicats, etc. Et donc pour faciliter la prise de parole, disons, pour inciter les gens à s'exprimer, eh ben on pourrait faire un petit bilan de ce travail d'enquête, qui, bon, évidemment, n'est pas représentatif, puisqu'il a été fait avec des moyens limités, mais qui permet déjà d'aller vers un des objectifs de la réunion publique, c'est-à-dire recueillir les avis. Donc voilà ce qui est prévu. Et puis, ma foi, on pourra également parler de la suite, hein, puisque les... Il y a deux choses qu'on peut projeter à l'avenir. C'est-à-dire, d'abord, il y a le tribunal administratif qui va décider, qui va trancher un certain nombre de litiges. Donc, en fonction de ce qui est dit, eh ben, ça impactera la suite. Et puis, également, on est dans un contexte où les luttes forestières sont nombreuses sur le Limousin et puis au-delà. Et voilà, ben on va pouvoir s'intéresser à est-ce que quelle est la problématique, en fait. Pourquoi est-ce que partout on est face à des projets qui touchent à la forêt et qui font débat ou qui font conflit. Donc on pourra essayer de faire le lien avec d'autres enjeux.
On sent que cette réunion, elle s'inscrit aussi dans une démarche d'information, d'échange, de recueil d'informations. Peut-être aussi un moyen de prendre les connaissances de la réalité du territoire, de s'ancrer vraiment dans ce que ressentent les gens qui sont les premiers touchés. Là, vous avez parlé du tribunal administratif. Quels sont les autres modes d'action que vous envisagez avec ce collectif ?
Alors, c'est un peu tôt pour dire, parce que en fait ce collectif s'est mobilisé à plusieurs reprises à des étapes un peu clés de l'avancée du projet. Par exemple, quand la dernière en date, c'était en novembre 2023, quand la communauté de communes a revendu les terres expropriées à Piftobois, au groupe à la Syrie. Là, nous sommes, en fait, la situation est telle que les échéances prochaines, le rythme finalement va être donné par les décisions du tribunal administratif, parce que d'un point de vue des collectivités, tout est prêt. Tout est prêt pour que c'est-à-dire que les gens sont expropriés. Il y a un feu vert, tout est prêt, tout est décidé, mais l'industriel ne bouge pas, selon nous, parce que si le tribunal administratif donnait tort à la Comcom, eh bien, il pourrait être obligé de remettre en état, ce qui lui coûterait extrêmement cher. Donc, la prochaine étape, disons, va être de surveiller les décisions du tribunal administratif, et puis de refaire ce travail de communication, de pédagogie, de réflexion sur qu'est-ce que ça implique pour le territoire, pour la commune. Est-ce que les PLU vont devoir être faits? Est-ce qu'ils sont annulés? Est-ce qu'ils sont modifiés? Est-ce que rien du tout? Est-ce qu'il faut aller en appel? Donc effectivement, on en est là parce que
on sent qu'il y a une situation administrative qui est bloquée du côté juridique.
Voilà, et puis c'est également le fait, la réalité, c'est que la mobilisation citoyenne sur Aigueton est très faible, pour les raisons que j'expliquais, c'est-à-dire le chantage à l'emploi, des groupes sociaux où beaucoup de monde se connaissent et puis ne souhaitent pas se contredire. c'est vrai pour la filière forestière aussi, hein. Tout le monde se connaît, et même s'ils sont concurrents, ils ne souhaitent pas s'opposer. Donc voilà, on a le sentiment que c'est pas unique, que évidemment c'est fondamental d'aller vers les habitants du territoire pour recueillir les avis des personnes qui veulent bien s'exprimer, avec le moins de parti pris possible, disons. Mais que ça ne va pas, voilà, c'est pas le contexte local seul qui va définir ce qui se passe.
Si, mettons, si cette extension est actée, si effectivement oui. le tribunal opte, voilà, pour que les choses se fassent avec les collectivités et tout ce dont on a parlé précédemment, quelles sont, vous, les propositions alternatives, les concessions que vous êtes prêts à faire? Quels sont les terrains d'entente sur lesquels, enfin en tout cas, les propositions que vous êtes prêts à faire pour essayer de tirer vos épingles du jeu et finalement d'arriver à un compromis possible avec Pif Tofarge?
Bah, alors, le compromis, je veux dire, Pif Tofarge, lui, il n'est pas à la recherche d'un compromis avec nous. C'est-à-dire que s'il a la capacité de doubler sa capacité, il le fera, et puis nous, on n'aura pas maintenant à dire. Mais évidemment, ce n'est pas la fin de partie. C'est-à-dire que, alors, d'un point de vue de la démarche du collectif, je veux dire, se mobiliser pour plus de démocratie et plus de transparence dans la vie publique, ça sera d'une actualité permanente. Et puis ensuite, sur les luttes forestières, bon, mais Pif Tofarge, c'est une scierie, c'est pas la plus grande de France du tout. Des projets plus ou moins contestables, il y en a d'autres. Il y en a un qui est en train d'agréger beaucoup de monde en Creuse, c'est un projet de bois énergie. Sachant que le bois énergie, c'est encore une autre problématique que les scieries. Donc en fait, tout ce qu'on aura acquis sur place, ça sera des acquis pour la suite. Mais ma foi, le site de Pif Tofarge, si ça grandit, bon, ben c'est... Alors, tant que les décisions sont en suspens, je doute que ce soit judicieux qu'il s'agrandisse, mais à l'avenir, s'il s'agrandit, il s'agrandit.
Si l'on souhaite rejoindre le collectif, comment vous contacter? Est-ce que c'est possible déjà? Et où est-ce qu'on peut retrouver les informations concernant le collectif citoyen du territoire de Rosiers-Dégleton?
Alors, au jour d'aujourd'hui, comme c'est une initiative relativement jeune, on a simplement une adresse mail qui figure sur l'invitation à la réunion publique. C'est réunionrosier@protonmail.com/.org. Donc, ce que je suggérerais, moi, aux personnes qui souhaitent nous rencontrer ou nous rejoindre, c'est peut-être, si ça leur est possible, de se rendre à la réunion publique, donc le samedi 10 février à Rosiers-Dégleton à 15h. Et par ailleurs, ce sont des actualités qui, donc dans un premier temps, hein, puisqu'on n'a pas de site internet à ce jour, ça viendra sans doute, mais disons qu'on est bien obligé de définir des priorités. Dans un second temps, on va essayer de diffuser l'actualité sur d'autres réseaux associatifs, sur la presse locale, jusqu'à réussir à se structurer un peu mieux.
L'extension de la série Pif Tofarge Bois est-elle bénéfique pour le territoire? Une réunion publique organisée par le collectif citoyen du territoire de Rosiers-Dégleton, ce sera le samedi 10 février 2024, bien sûr, ce sera à 15h à la salle des 1000 clubs, 3 routes du stade à Rosiers-Dégleton. Merci infiniment Sylvain d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes membre de ce collectif citoyen du territoire Rosiers-Dégleton. Merci d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet de l'extension de la série Pif Tofarge Bois. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous êtes ici et vous êtes bien sur Bram FM.
C'est noté. Merci à toi, Eve, pour cet entretien avec Sylvain, membre du collectif citoyen du territoire Rosiers-Dégleton. Il est 13h29. On a tout juste le temps d'écouter un titre avant de retrouver les infos. L'info régionale à 13h30, un petit peu de bossa nova pour se détendre. Je vous propose Maria Quiet de Astrud Gilberto. A tout de suite.
say that I was born of slave Mukama and white men. My father slept in iron bed, my mother on cold sand. When my father called, my mother would come, never said a word as if she were dumb. A woman who will talk too much is soon to lose her man. They say God made men first and made the woman second choice. And so that's why the woman should obey her master's voice. When the man is hungry, she bakes the bread. If the man is cold, she warms up the bed. Standing up or laying down, a woman has to work. They say poor man wakes early and he works until it's night. The rich man wakes up late and tells the poor man what is right. So the poor pray to Shango up above that the rich will lose the money they love. But rich or poor, the woman has to work for both of them. But rich or poor, the woman has to work for both of them.
Il est 13h31, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre sur Bram FM. Il est temps de retrouver votre journal régional.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Vendredi 26 janvier 2024, les conditions de circulation sont très compliquées en Limousin et Périgord comme presque partout en France. Soyez prudents et patients si vous devez vous déplacer. La mobilisation des agriculteurs risque de durer au moins toute la fin de cette semaine malgré les premières annonces du gouvernement. L'A20 est bloquée à plusieurs endroits entre Ussac en Corrèze et La Croisière dans le nord de la Haute-Vienne. De nombreuses mobilisations sont aussi toujours en cours sur le réseau secondaire. Mobilisation importante avec beaucoup d'agriculteurs mais aussi des citoyens qui viennent leur témoigner soutien et solidarité. Demain, les confédérations paysannes du Limousin appellent celles et ceux qui le souhaitent à se réunir sur le parking de Carrefour Boisseuil au sud de Limoges. Le syndicat souhaite interpeller les clients sur les questions du revenu des agriculteurs et des traités de libre-échange. Un accident visiblement non intentionnel s'est produit sur le barrage de la RN145 au niveau de Guéret. Un poids lourd a percuté un tracteur dans la nuit de mercredi à jeudi, un seul blessé léger, le chauffeur du camion. Les deux véhicules sont bons pour la casse. Le camion aurait quitté une aire de repos après sa pause obligatoire sans imaginer que la route était coupée un peu plus loin. La préfecture recommande aux manifestants de laisser les gyrophares des tracteurs allumés pour s'assurer d'être bien visible, que ce soit la nuit ou la journée. Une autre mobilisation est prévue demain, samedi 27 janvier. Un rassemblement dans chaque département concerné par la ligne POLT. L'association Urgence Ligne Polt appelle les élus, professionnels et citoyens à se retrouver à 11h devant les gares de Gourdon, Vierzon, Châteauroux, La Souterraine, Limoges et Brive. Jean-Jacques Lozac, sénateur de la Creuse au micro RPG d'Anne-Laure Le Joliffe.
Alors cette manifestation du 27 janvier, elle est déclenchée par une dégradation très nette du service sur cette ligne Polt au cours de l'année 2023. Et il se trouve que la directrice nationale des trains intercités nous a d'ores et déjà annoncé une dégradation encore plus forte au cours de l'année 2024, en particulier en raison des travaux qui sont engagés, des travaux de régénération qui correspondent simplement à des travaux d'entretien, de rattrapage par rapport à des décennies d'abandon. Et donc nous faisons un certain nombre de propositions, y compris pour une nouvelle organisation des travaux, afin que la circulation soit le moins perturbée possible.
Et lundi qui vient, le 29 janvier, vont donc débuter des travaux sur la ligne POLT. 4 trains seront supprimés pendant 2 mois. Le nombre de demandeurs d'emploi tenu de rechercher un emploi et sans activité, c'est-à-dire en catégorie A, a baissé de 0,3% en Nouvelle-Aquitaine sur l'année 2023, malgré une hausse d'1,8% sur le dernier trimestre. Dans le détail, France Travail, ex-Pôle emploi, relève une augmentation de 0,4% au quatrième trimestre 2023 en Corrèze, mais le nombre de chômeurs de catégorie A a diminué de 3,4% sur un an. Idem en Dordogne, plus 1% sur le dernier trimestre et moins 2,4% sur un an. Même phénomène en Haute-Vienne, plus 0,2% sur le dernier trimestre, mais baisse d'1,1% sur un an. Enfin, en Creuse, ce nombre augmente d'1,4% sur le dernier trimestre 2023, augmentation d'1,7% sur un an. Un demi-million d'euros. Le village martyr d'Oradour-sur-Glane vient d'enregistrer le plus important don jamais réalisé par un particulier. Il s'agit d'une habitante de Strasbourg en Alsace. Elle ne souhaite pas en dire plus sur son identité. Les 500 000 euros de dons collectés par la Fondation du patrimoine seront utilisés pour réaliser des travaux pour la sauvegarde du site qui souffre du poids des années. L'érosion des ruines s'amplifie à l'approche des 80 ans du massacre. Une souscription publique est d'ailleurs toujours en cours sur le site internet www.fondation-patrimoine.org. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle fin de semaine à tous.
Vous êtes ici en direct jusqu'à 14h sur Bram FM.
Exactement, en direct jusqu'à 14h sur Bram FM. Bienvenue à vous si vous venez à l'instant de nous rejoindre. À 13h50, la chronique en Limousin suivie de la météo du week-end par Eve qui nous dira tout sur les températures et la couleur du ciel qui nous attendent. Ça promet du beau temps apparemment, mais on va attendre les détails à 13h55. Actu sportive toute fraîche également puisque Johan est avec nous dans les studios. On le retrouve dans un court instant. Patience, gros événement à l'Open d'Australie. En attendant, je vous propose mon coup de cœur musical du jour. Si vous aimez le blues, le funk, je pense que ça ne devrait pas vous déplaire ce morceau Master Charge par Albert Collins.
Back and bear, huh? We're gonna get too much on the bill, dear. $500 already, baby. Yeah, but I know that, but you know that 18% is killing me. Yeah, I understand, dog. I know you want to charge it and everything, but yeah, I know you.
On the American Express.
Wait a minute, man. Yeah, I told you to take that MasterCard with you. Take one with you and leave one at home. But you look good in them blue jeans, though. Yeah, I understand, dog. They got them on sale up that side of the wall. $15, man, on sale, darling. Boy, I'm gonna make me strut down the street in them blue jeans. Yeah, Lord, you just need them, wear them dresses on the weekend. Yeah, hey, baby, well, charge it then, baby, that's all right. I have a Visa, what? Give me the scissors, I'm gonna cut them up. Well, you ought to be ashamed yourself, you. Yeah, I know, darling.
Charge it.
Yeah, go on, charge it, darling. I'm guilty, go on. I know you're gonna charge it, man. Oh, I know you look good in them blue jeans. Yeah, it look like you've been pulled in them. Oh, charge it, baby.
Yeah, Albert Collins, Master Charge sur Bram FM. Il est temps de parler sport, actualité sportive, sans plus attendre, avec notre ami Johan, qui est avec nous dans les studios.
Vous êtes ici, en direct jusqu'à 14h, sur Bram FM.
Salut Johan.
Bonjour.
Ça va ?
Impeccable.
Bon, ça t'a plu ce petit morceau d'Albert Collins ?
C'était très bien.
Bon, mais parfait, parfait. J'espère que ça a plu à tout le monde. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Événement à ne pas. Ben, événement sur l'Open d'Australie de tennis pour commencer.
Tout à fait.
Puisque, ben, grosse surprise, on va en parler avec toi pour commencer.
Tout à fait. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce matin, il fallait être particulièrement matinal pour assister au premier événement tennistique de la journée. La première demi-finale homme du tournoi de tennis de Melbourne, l'Open d'Australie. Le premier des quatre tournois du Grand Chelem. Et ce matin, nous avions droit à un match opposant le patron des lieux, Novak Djokovic, numéro 1 mondial incontesté, 10 titres sur ce tournoi. Il a joué 10 fois les demi-finales, en a perdu aucune. Face à sa bête noire du moment, Yannick Sinner, qu'il a battu 2 fois sur leurs 3 dernières confrontations. Je pense qu'aucun joueur sur le circuit peut se vanter d'un tel ratio. Et bien alors qu'on s'attendait à un combat titanesque, on peut presque dire que ça aurait été une formalité pour Yannick Sinner. Les deux premiers sets remportés en 1h13, 6-1, 6-2. En temps normal, quand c'est accroché, on peut compter facilement 1h par set. Djoko aura le mérite de se réveiller dans le troisième set en le remportant au tie-break tout en montrant qu'il était impuissant sur les services de son adversaire. Et ce qui devait arriver arriva, puisque Sinner a remporté le quatrième et dernier set. 6-3 et se qualifie donc à 22 ans pour sa première finale en Grand Chelem. Face au vainqueur du match en cours, Zverev Medvedev, soit le 13e joueur contre le 6e joueur mondial. Et là, pour le coup, il y a du suspense, puisque c'est encore en cours, ça a attaqué à 9h30, 10h ce matin, ils y sont toujours. 2-7 partout, le 5e set qui a commencé, bref, un vrai combat.
Juste, je fais une aparté, tu paries sur qui, là, on est au 5e set, entre Zverev et Medvedev ?
Ah, sur l'expérience Medvedev.
Ah oui, lui, il court partout, hein. Il paraît qu'il est cuit, hein, un petit peu, donc on
ouais,
va voir. Hein.
Il a l'expérience d'avoir gagné un grand chelem.
C'est ça. Bon. Et Sinner, tu le vois gagner ?
Ah, je vois bien gagner, ouais.
Ouais,
grosse pièce dessus. Il a joué moins longtemps que les autres, du coup, avec sa demi-finale un peu courte.
Ouais.
Les autres deux sont en train de faire un combat de titan, donc ils vont être bien fatigués. Ouais, je vois bien la petite pièce sur Yannick Sinner.
Ah ouais, il part favori, là.
J'aurais pas mis la pièce au début du tournoi.
Bon, il y a les dames aussi.
Et effectivement, du côté des dames, la finale qui aura lieu samedi mettra aux prises la tenante du titre, Arina Sabalenka, à la surprenante chinoise Zhang, qui a su remporter une partie de tableau où toutes les favorites se sont fait sortir les unes après les autres, bien avant l'heure. Donc, à voir. Deuxième titre d'affilée ou la grosse surprise jusqu'au bout pour la chinoise.
Ouais, ouais, mais Sabalenka, grande favorite quand même.
Tout à fait.
D'accord. Affaire à suivre. Bon, on va parler de handball maintenant avec toi après cette parenthèse tennis.
Exactement. Je vous ai parlé la dernière fois du championnat d'Europe de hand et nos Français figurant parmi les favoris, on va dire comme d'habitude. Eh bien, ils sont une nouvelle fois qualifiés pour les demi-finales. Alors, ils nous ont tellement habitués à ça qu'on a l'impression que c'est normal. Mais non, c'est pas normal d'être en demi-finale tout le temps. Soyons conscients du niveau de dingue que cette équipe affiche depuis des années. La demi-finale qui nous opposera comme l'an dernier au championnat du monde à la Suède, c'est ce soir à 17h45. Espérant un résultat identique à l'an dernier qui nous enverra en finale face au Danemark ou à l'Allemagne avec des Danois qui, eux, pour le coup, sont un peu notre bête noire.
Ensuite, oui, tu voulais nous dire.
Ça, c'est pour les événements en cours. Mais aujourd'hui, je voulais surtout vous parler d'un événement local qui me tient particulièrement à cœur. Parce que ça ne se passe pas loin de chez moi, à Moustier-Ventadour, et que je fais aussi un tout petit peu partie des organisateurs. Le premier trail des troubadours.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Exactement. Organisé par le foyer rural de Moustier-Ventadour, avec un départ et une arrivée dans le château de Ventadour. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, Moustier-Ventadour, c'est à 5 minutes d'Aigleton, c'est la Haute-Corrèze.
Bah, c'est pas loin du château.
C'est... Et alors, justement, il y en aura pour tous les goûts, et je vais t'expliquer pourquoi.
Dis-moi.
Puisqu'il y aura départ et arrivée systématique au château. Il y en aura pour tous les goûts, un 6 km pour ceux qui veulent, on va dire, pas s'aventurer trop loin, un 12 km assez roulant pour ceux qui ont envie d'allonger un peu la distance tout en allant sur des choses raisonnables, et enfin un 25 km pour les plus courageux qui vont accepter de se frotter à la distance et aux 800 mètres de dénivelé positif. Ils vont aller voir la Luzège plusieurs fois et ça va leur faire mal aux jambes, je le promets tout de suite. On a pris le parti de mettre des tarifs les plus bas possibles afin de rentrer dans nos frais sans vous ruiner. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos partenaires présents sur l'affiche qui nous ont donné un gros coup de pouce financier. Les réservations sont ouvertes en ligne. Il y a un QR code et le lien sur l'affiche que vous voudrez bien nous partager. Mais également par mail au traildestroubadours@gmail.com. Bien que ce soit notre premier trail, l'équipe est rodée à l'organisation d'événements en tout genre et vous serez reçus aux petits oignons avec une possibilité de restauration sur place avec réservation. Oui. On vous attend nombreux à cet événement pour partir à l'assaut du château.
Mais qu'est-ce que c'est bien présenté, cet événement, on dirait un spot publicitaire presque.
C'est vrai, je vais peut-être me lancer dans la pub alors.
Bon, on rappelle la date de ce premier trail.
Le 10 mars 2024,
bon.
À 9h.
Donc pour les inscriptions, vous avez tout noté, un trail des troubadours, tout attaché, @gmail.com.
Johan, exactement, j'ai tout dit. C'est
bon,
ça,
parfait.
Merci.
Alors non, j'ai pas tout dit puisque tu vas nous gratifier d'un titre, d'un morceau musical que tu as choisi. Bon, là, on est dans le connu. Mais
dans le classique du classique.
Voilà.
Le groupe Queen.
Eh bien oui, Don't Stop Me Now sur Bram FM. Et juste après, nous retrouvons la chronique en Limousin. Il est 13h46. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Good time. I'm having a ball. Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just keep
Ah, on ne s'en lasse pas de ces classiques. Don't Stop Me Now de Queen, c'était le choix de Johan, voilà, qui nous a fait un petit récapitulatif de l'actualité sportive qui s'est passée cette nuit, notamment en tennis. Il est 13h50, nous retrouvons notre chère Eve, comme promis, dans un instant pour la météo de ce week-end. C'est l'heure de retrouver votre chronique en Limousin sur Bram FM.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Ce soir, c'est la 11e nuit des conservatoires. C'est le moment pour ces écoles partout en France d'ouvrir leurs portes au public, de faire vivre la musique et la danse au cœur des villes. Et cette année encore, le conservatoire de Tulle y participe. Laetitia Chapelle, la directrice, tient avant tout à nous rappeler que le conservatoire, eh bien oui, ce n'est pas que de la musique.
Sur la nuit des conservatoires, c'est l'occasion de découvrir aussi la facette danse, puisqu'il y aura un atelier danse parents-enfants, où les enfants de 4 à 8 ans pourront venir participer avec un de leurs parents. C'est totalement gratuit, c'est simplement sur inscription. Donc c'est l'occasion de découvrir en famille, ce sera un atelier vraiment ludique, organisé par une de nos professeurs de danse du conservatoire. Ce sera vendredi de 17h à 18h. Et ensuite, pour la partie danse, il y aura un cours de danse contemporaine de 18h30 à 20h, qui est un cours habituel en portes ouvertes, donc où là, le public pourra venir découvrir de l'intérieur comment se passe un cours.
Au troisième étage, l'orchestre symphonique répète pour le concert de ce soir. À la baguette, on retrouve Aurélien Pétillot, le chef d'orchestre.
Et 3, 4...
C'est l'orchestre du deuxième et troisième cycle. Donc on a des enfants qui ont entre 11 et 18 ans à peu près dans l'orchestre. Le plus jeune à 11 ans. Donc le deuxième cycle, en gros, c'est à peu près après 4 ans d'exploration de l'instrument. Donc le deuxième cycle, les élèves commencent à être assez autonomes, c'est le but. Et puis on leur donne des répertoires de plus en plus difficiles ou qui peuvent être des défis parfois. Et c'est intéressant de les voir évoluer aussi d'une année sur l'autre, d'un programme à l'autre. Parce que bien sûr, moi, mon but, c'est d'avoir des répertoires qui soient jouables, mais aussi qui les stimulent, qui soient intéressants à jouer.
Super, très très bien. Si vous jouez avec cette énergie-là vendredi, ça va être absolument magnifique.
Et pour Aurélien Pétillot, ce concert, c'est très important.
Montrer où on en est dans notre évolution, parce qu'il y a des choses qu'on travaille depuis pas longtemps, et puis aussi montrer au public que ce conservatoire est là, et que c'est vraiment la vie du quartier, c'est primordial pour la ville de Tulle. Donc c'est la nuit des conservatoires, c'est vendredi, à partir de 17h30, et puis c'est pas vraiment toute la nuit, parce que quand même nos élèves doivent se reposer, donc ça s'arrête vers 10h30, 11h, quelque chose comme ça. Mais c'est une bonne opportunité de voir un petit peu ce qui se passe ici et puis de participer, d'écouter et de soutenir les élèves.
Retournons du côté des élèves justement, à l'étage d'en dessous, au département musiques actuelles, c'est pas la même ambiance. Ils sont quatre dans ce groupe. À la basse, on retrouve André, 15 ans. Au chant, Léa, 17 ans. À la guitare, Elliot, 14 ans. Son frère jumeau, Ethan, tient la batterie. Mais sont-ils stressés, nos quatre jeunes musiciens?
Franchement, ça
pas
va.
Du tout.
On n'a pas une énorme...
Ça va. On a l'habitude, ça va.
On a fait Avirvial, sans notre guitariste chéri. On a fait donc Au lendemain qui chante. Et voilà. On a fait la médiathèque aussi.
C'est oui, on a fait la médiathèque.
Et ils ont déjà leur style, à en croire André.
C'est des power chords de guitare, c'est des crash pas en place, c'est des secondes mineures sans faire exprès.
Et si leur groupe jouera bel et bien ce soir, ce n'est malheureusement pas le cas des 13 groupes que gère le professeur Laurent Garcia avec ses collègues.
On a essayé de répartir un petit peu sur l'année en fonction des besoins, en fonction des niveaux, en fonction des disponibilités aussi, parce que du coup on propose en fait plusieurs échéances dans l'année pour faire jouer les élèves. Du coup, ça va concerner 6 groupes, 7 avec un atelier percussion qui sera animé par Franck Constant.
La nuit des conservatoires, c'est donc ce soir. Celui de Tulle ouvre ses portes aux alentours de 17h pour les refermer vers 22h. Vous pouvez retrouver le programme complet en tapant dans votre moteur de recherche « Nuit des conservatoires, Tulle ». Thomas Van Hendrich, Bram FM pour Le Grave.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Merci beaucoup Thomas pour ce petit reportage concernant la nuit des conservatoires de Tulle. C'est ce soir, donc événement à ne pas louper, ça va sans dire. Il est temps de la retrouver, elle est encore parmi nous, Eve pour la météo de ce week-end.
Météo de plastique, dépeint à l'acrylique, sous ces airs pandémiques, je veux la météo prophétique, disponible en un clic, contenu fantastique.
Sache que c'est mon titre pour annoncer la météo préférée, t'auras le droit de le remettre à Isa, elle le connaît par cœur, elle le connaît très bien, c'est un groupe qui s'appelle Tu m'adores, m'adore, ça s'écrit A-D-O-R, je trouve ça, moi j'adore,
tu m'adores. Eh ben oui, sinon tu l'aurais pas mis, mais en tout cas j'adore, puisque voilà, c'est une façon
d'envoyer
la météo de manière peu orthodoxe. Allez, on t'écoute.
Alors, une météo peu orthodoxe pour votre week-end en Corrèze. Demain, 27 janvier, samedi 27 janvier, c'est encore dans le brouillard que les Corréziens et Corréziennes se réveilleront. Brouillard qui laissera place à un ciel voilé dans l'après-midi. Alors, je vous rappelle quand même que le père de Audrey disait qu'il n'y avait pas de samedi sans soleil, donc il y aura des nuages, mais probablement quelques éclaircies. Voilà, brouillard qui laissera place donc à un ciel voilé dans l'après-midi. Les températures matinales seront un poil plus fraîche que ces derniers jours. À l'aube, il fera de 2 à 6 degrés du nord au sud de la Corrèze. Dans l'après-midi, elles remonteront et seront au-dessus des normales de saison, vous vous en doutez. Elles seront comprises entre 12 et 14 degrés sur les territoires corréziens. Dimanche 28 janvier, le ciel corrézien, toujours, hein, bien sûr on parle de la Corrèze, ça va de soi, sera voilé toute la journée mais laissera bien sûr passer quelques rayons lumineux. Les températures seront comprises en matinée de 4 à 10 degrés du nord au sud et dans l'après-midi, le mercure va grimper anormalement pour s'installer entre 15 et 18 degrés qui sera la maximale attendue à Brive dimanche. Lundi 29 janvier, le ciel sera tout à fait similaire à celui donc de samedi après-midi et à dimanche. Un soleil présent mais voilé, pas de précipitations ni de grand bleu à l'horizon. Et des températures toujours très douces allant de 7 à 10 degrés en matinée. Isabelle reviendra dans sa robe couleur du temps dès lundi dans l'émission « Vous êtes ici ».
Et comptez sur elle, en tout cas une douceur assez anormale pour la saison. On ne va pas s'en plaindre, hein, mais bon, on trouve ça quand même assez particulier. Merci Eve.
Merci à beaucoup. Toi Aymeric.
Bon, c'est ta dernière.
Si, je suis un peu émue, c'est la dernière fois que je parle dans le micro de Bram FM en tant qu'animatrice. Oui. Voilà. Ça fait quelque chose, ouais.
Ben ouais, forcément.
Ça fait deux ans quand même.
Eh ben oui, 2 ans.
Donc je pense à ceux qui sont là depuis 35 ans.
Ah ouais. Bon, en tout cas, une voix qui aura marqué l'histoire de cette radio et vous l'entendrez encore hein, dans les jingles de Bram FM.
Ouais. La voix. C'est vrai.
Eh ben oui, bien sûr, puisque voilà, tu n'es pas... Tu ne pars pas sans laisser une trace importante.
Une petite...
En tout cas, merci Eve, c'est avec émotion que on passe le relais ensemble. Merci à toi, merci également à Sylvain du collectif du territoire Rosier Aigleton. Merci à Johan pour sa chronique sport du jour et merci à vous fidèles auditrices et auditeurs de Bram FM. D'être à l'écoute, cette émission est à retrouver, vous le savez, j'en suis sûr, en podcast sur le site de Bram FM dans la rubrique Vous êtes ici. La suite du programme dans un instant sur les ondes de Bram FM. Bel après-midi et bon week-end.
Il y a l'émission Zoom avec Martine Calcinotto dans quelques secondes qui arrive juste après ça. Et ce soir à 21h, c'est la DJ Academy, bien sûr.
Voilà, merci Eve pour tous ces détails.
À lundi.
Ciao.